Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principes Actifs. Donc, c'est Amnesty International pour la première émission de cette nouvelle année, puisqu'on est le 17 janvier 2023. Et on va tous, alors quand je dis tous, on dit à Edith et Clarisse qui sont au micro, on va tous souhaiter la bonne année aux auditeurs. Donc, je propose qu'on le fasse à 3. 1, 2, 3.
Bonne année!
Voilà. Meilleurs vœux, que tout se passe bien pour vous. Et puis, surtout, restez vigilants pour la défense et la promotion des droits humains avec Amnesty. On est là pour ça. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie. Voilà. Alors, pour commencer l'année, je vais vous lire un petit communiqué très rapide. Est ouvert depuis hier un colloque mondial qui a lieu tous les ans en Suisse, dans une ville qui s'appelle Davos, qui est un peu une réunion des gens les plus riches de la planète et des décideurs économiques et autres. Et il y a donc la secrétaire internationale d'Amnesty, Agnès Callamard, qui est présente cette année au forum pour essayer de défendre la bannière des droits humains et qui a publié un petit communiqué que je vais vous lire. Ces dernières années, c'est comme si la boîte de Pandore avait été ouverte, libérant des crises indicibles de par le monde. Nous sommes confrontés à des défis qui bien souvent se chevauchent et s'entremêlent. La crise climatique, une pandémie mondiale, des conflits armés, la dernière révolution industrielle technologique propice à l'exploitation, l'insécurité alimentaire généralisée, une économie mondiale source de richesses inimaginables pour une poignée, tandis que des millions sont étranglés par les bas salaires ou le chômage. Hélas, la plupart des rencontres organisées à l'échelle planétaire pour trouver des solutions se résument désormais à des forums où l'on se contente de pointer les problèmes sans guère de résultats concrets. Pour que l'événement de Davos 2023 ne connaisse pas le même sort, les élites très influentes qui s'y retrouvent doivent réfléchir à la raison de leur présence. Elles doivent se focaliser sur l'émergence de solutions tangibles dont nous savons déjà qu'elles fonctionnent, au lieu de protéger à tout prix le système économique mondial en place. Les rencontres et tables rondes parallèles devraient bouillonner de débats sur de nouvelles taxes pour les entreprises du secteur des combustibles fossiles et sur l'incitation à produire de l'énergie verte respectant les droits humains. Elles doivent s'attaquer à la corruption, donc les élites, entre guillemets, elles doivent s'attaquer à la corruption endémique, mettre fin à l'évasion fiscale et à l'optimisation fiscale agressive, combattre les inégalités, y compris le racisme et le sexisme, à la racine, en commençant par leurs propres salles de conseil et cabinets gouvernementaux. Les enjeux sont trop importants pour se contenter de vaines gesticulations. Voilà son petit communiqué. Et puis juste pour compléter en deux mots, je vous signale aussi, alors c'est entre guillemets du copinage, mais on est très content de le faire, le rapport d'Oxfam qui vient d'être publié il y a deux jours par rapport justement à ce sommet de Davos et et dont le résumé, alors il fait beaucoup de pages, j'ai commencé simplement à le lire, mais il rappelle à la fin, alors je vais juste vous dire ça, cette phrase-là quand même, dans la présentation, avec une fortune de 179 milliards d'euros, je sais pas, on peut pas se représenter, 179 milliards d'euros, Bernard Arnault est désormais l'homme le plus riche de la planète, sa fortune correspond à l'équivalent de celle de près de 20 millions de Français. Voilà. Les injustices économiques n'ont jamais été si fortes dans le monde qu'à l'heure actuelle.
Quand tu dis sa fortune correspond à celle de je ne sais combien de Français, bon, les Français n'ont pas la fortune, hein, ce qu'il faut être clair. Hein.
Oui,
c'est
oui,
lui
oui.
qui l'a.
Oui, c'est lui qui l'a.
C'est accumulé tout le monde, oui, ça c'est...
Tout à fait. Voilà, donc c'était un petit commentaire sur Davos. Hein. Donc voilà, Davos devrait aboutir à des décisions concrètes. On n'est pas trop optimiste, je pense que ça va continuer à être des discussions de salon entre gens qui se comprennent très bien. Voilà, je crois qu'Edith, tu avais tout à fait autre chose.
Eh bien, moi, je démarre l'année par une bonne nouvelle. Et pour ceux qui nous suivent déjà depuis, on va dire, au moins 2 ans, ce sont 2 personnes qui ont fait partie des 10 jours pour signer. Il y a donc, on va dire, en 2019, je pense.
Oui, ça devait être 2019.
Je pense que c'est 2019. Donc, Sarah Mardini et Sean Binder. Donc, ce sont 2 personnes qui... étaient emprisonnés en Grèce. Parce qu'en Grèce, on peut aller en prison pour avoir essayé de sauver une vie. C'est ce qui leur est arrivé. Donc, Sarah Mardini, 24 ans, c'est une Syrienne. Et l'Allemand Sean Binder, 25 ans. Lorsqu'il faisait du bénévolat pour une ONG de sauvetage grec sur l'île de Lesbos. Leur activité consistait à repérer et secourir les embarcations en détresse. Le 17 février 2018, ils ont été arrêtés par la police grecque dans le cadre de leur activité bénévole. Ils sont accusés d'espionnage, de trafic d'êtres humains et d'appartenir à une organisation criminelle. Et s'ils sont reconnus coupables, ils pourraient passer chacun 25 ans en prison. Et ils ont déjà passé plus de 100 jours avant d'être libérés sous caution en décembre 2018. Donc c'est après... il y a eu beaucoup d'aide, 60 000 actions de solidarité et d'interprétation auprès des autorités menées en France et dans d'autres pays. Mais le procès de Sean et de Sarah a été plusieurs fois ajourné. La dernière fois, c'était en 2021, où le tribunal a refusé de se prononcer sur l'interdiction de voyager de Sarah. Donc, ces 2 jeunes sont depuis 2018, on va dire, je ne sais pas, sur dans des voies de garage. Enfin, ils ne peuvent plus du tout continuer leur vie normalement. Et là, en janvier 2023, le procès de nouveau débute. Tous 2 risquent toujours 25 ans de prison, mais le 13 janvier 2023, une première bonne nouvelle. La justice grecque annule la procédure pour espionnage contre Sarah et Sean et leurs co-accusés. Toutefois, le combat n'est pas fini puisque nous demandons l'abandon de toutes les charges qui pèsent sur Sarah et Sean. Et l'enquête criminelle contre Sarah et Sean n'est pas un cas isolé. Elle est emblématique en Grèce et en Europe d'une utilisation abusive des lois pour criminaliser les personnes portant secours ou agissant en solidarité avec les réfugiés et les migrants. Ces hommes et ces femmes qui, fuyant un conflit, la torture ou d'autres exactions dans leur pays, n'ont souvent pas d'autre choix que d'entreprendre des périples extrêmement dangereux pour trouver la sécurité. Et la criminalisation des défenseurs des droits des migrants réfugiés et l'abandon en mer des réfugiés ne dissuaderont personne de traverser la Méditerranée. Par contre, cela entraînera encore plus de morts. La solidarité n'est pas un crime. Donc là, une petite ouverture sur le procès. On espère qu'il va continuer aussi à abandonner toutes les charges, mais se rendre compte que être dans une ONG, défendre des migrants, eh bien, dans certains pays en Europe, c'est bien dangereux.
Ben oui, de toute façon. Et ça risque de, auprès de ce qui se passe, de l'évolution des différentes lois dans les différents pays, ça risque de devenir même de plus en plus généralisé, hein, ce délit de solidarité, cette expression absolument insupportable du délit de solidarité. Et juste pour un petit commentaire par rapport à ça, ça montre qu'effectivement, ça fait des années qu'on agit pour ces deux, pour Sean et pour Sarah. Ça montre bien, effectivement, que obtenir des choses quand on parle de droits humains avec Amnesty, ça peut être très long, mais que, effectivement, il faut jamais se décourager.
Voilà. Il faut pas se décourager et de se dire que le fait que le procès a été reporté est aussi, allez, on va être optimiste, un malaise des autorités grecques par rapport au fait que ces 2 jeunes ont été très médiatisés et très soutenus.
Ben, elles ne se sentent pas très à l'aise pour les réprimer, quoi, c'est clair. Claire-Lise ?
Oui, Eh ben écoutez, je vais continuer sur le thème des migrants. C'est un sujet que j'aborde souvent avec vous. Et vous parlez de la nouvelle loi asile et immigration que le gouvernement va nous concocter. Alors, dans un climat quand même, après les élections présidentielles, où on a beaucoup montré du doigt les étrangers, qui sont vraiment le danger pour la nation, et voilà, et avec un climat quand même raciste qui a émergé sur certaines ondes, voilà, sur certaines télévisions, certaines radios, sociaux. Et sur, avec certains partis politiques maintenant représentés quand même à l'Assemblée nationale. Donc effectivement, je vous avais exprimé il y a quelques semaines mes inquiétudes par rapport à ce nouveau projet de loi, et c'est vrai que y a de quoi se faire un peu de soucis. Donc il y a une criminalisation des migrants étrangers, et cette criminalisation, ça ne réglera pas la question migratoire. Donc en ce début d'année 2023, un énième projet de loi asile et immigration sera proposé par le gouvernement français. Depuis 30 ans, les textes relatifs à la politique migratoire de la France stigmatisent toujours davantage les personnes exilées en les présentant comme un problème à régler. Donc Jean-Claude Samoulier, le président d'Amnesty France, a pris la parole sur le sujet dans une tribune publiée sur le site de l'Humanité. Donc l'énoncé même de cette question est révélateur. D'emblée est posée l'affirmation que la migration est une question à régler et qu'elle constitue forcément un problème. Alors les discours dominants parlent de flot, de vagues migratoires, j'allais dire crématoires, et utiliser de tels mots, des mots qui déshumanisent les personnes, c'est occulter la gravité des souffrances de ces personnes dans leur pays d'origine, tout au long de leur parcours migratoire et une fois arrivés dans leur pays, le pays d'accueil. C'est faire percevoir ces personnes comme une menace. Et c'est faux, c'est injuste et c'est insultant. Mais rien n'y fait. Dans les discours publics, dans les médias, ces personnes sont assimilées à des délinquants ou à des criminels. Alors qu'au pire, elles ne font qu'enfreindre des dispositions administratives. Sur la vingtaine de textes de loi publiés en 30 ans sur le sujet, le migrant, le demandeur d'asile est toujours présenté comme le problème, comme le danger, comme la personne à contrôler et à expulser le plus rapidement possible. Le projet de loi tel qu'il se dessine ne fait pas exception à la règle. Il faut accélérer les procédures, délivrer des obligations à quitter le territoire français, OQTF, avant même la fin des recours, ce qui complexifie et fragilise encore un peu plus la situation du demandeur d'asile. Il faut passer à un juge unique pour la Cour nationale du droit d'asile, au risque d'une moins bonne connaissance de la situation du pays d'origine de la personne. Alors, qu'est-ce qu'une obligation à quitter le territoire français, une OQTF ? C'est la principale mesure utilisée par les préfectures pour expulser une personne étrangère du territoire français. En 2020, plus de 108 000 OQTF ont été prononcés en France, un record en Europe. Outre la décision obligeant la personne à quitter le territoire français, deux autres décisions sont prises en même temps. Une décision relative au délai de départ volontaire. La préfecture peut accorder à la personne un délai pour quitter la France par ses propres moyens, généralement 30 jours, ou refuser de lui laisser ce choix sans délai de départ volontaire. Et il y a une décision relative aussi au pays de destination. La préfecture doit préciser le pays dans lequel la personne doit retourner. Il s'agit en général du pays dont il a la nationalité. Un élément essentiel du droit d'asile est la protection contre l'expulsion dans un pays où la personne risque la persécution, la torture ou des mauvais traitements. Donc c'est le principe du non-refoulement. Aujourd'hui, en France, certaines personnes peuvent être expulsées alors même que leur demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une réponse définitive. La préfecture prononce une obligation à quitter le territoire français dès le rejet de la demande de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, c'est-à-dire l'OFPRA, sans attendre la réponse de la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, sur le recours des intéressés. Alors c'est ce que veut systématiser la nouvelle loi asile, c'est-à-dire qu'on n'attendra pas le recours à la CNDA, C'est dès la décision de l'OFPRA. Si l'OFPRA dit on ne donne pas l'asile à la personne peut être expulsée alors qu'elle avait le droit de faire un recours auprès de la CNDA. C'est par exemple le cas des personnes qui proviennent de pays considérés comme sûrs par la France. Mais en 2021, 630 personnes provenant de pays dits sûrs ont été reconnues réfugiées par la CNDA. Donc si elles sont expulsées, si ces personnes elles avaient été expulsées dès le rejet OFPRA, alors qu'il y en a 630 qui ont quand même obtenu le statut par la CNDA, et ben en fait, il y a un risque de refoulement illégal qui est réel. Mmh. Voilà. Donc, des sources aussi qui viennent de la CIMADE, à Calais et à Grande-Synthe, par exemple, les forces de l'ordre détruisent les campements dans les dunes toutes les 48 heures. Souvent, les affaires des personnes sont confisquées, les tentes sont lacérées, et des arrêtés municipaux ou préfectoraux interdisent aux citoyens de leur apporter de la nourriture ou des boissons chaudes. La raison invoquée, zéro point de fixation, zéro appel d'air. Mais qu'est-ce que c'est que... Enfin, faire croire que lorsque les tentes seront lacérées à Calais, cela va empêcher les Érythréens ou les Afghans de fuir des régimes politiques effroyables. Il y a aucun, enfin, ça n'a aucun sens non, de lacérer leurs tentes. C'est pas parce qu'on lacère leurs tentes qu'ils ne vont pas continuer à fuir ces et pays à et à arriver. Donc voilà.
Mais c'est une forme, de harcèlement, de toute façon.
Qu'est-ce qui justifie de rajouter gratuitement de la souffrance à la souffrance? Pourquoi ne pas chercher plutôt à mettre en place des voies d'immigration sûres et légales afin que les personnes puissent être protégées sans mettre leur vie en péril? S'il fallait vraiment une nouvelle loi, il l'aurait fallu en rupture totale avec les précédentes. Il l'aurait fallu organiser autour des droits fondamentaux de la personne et non rajouter une couche supplémentaire de suspicion, de harcèlement et d'atteinte aux droits. Il aurait fallu un texte en conformité avec les engagements de la France en matière des droits humains. Mais malheureusement, j'ai bien peur que la France s'en éloigne de plus en plus et que cette nouvelle loi asile et immigration, ce soit encore une infamie, parce que c'est vrai que par rapport aux droits fondamentaux des personnes, on est en train dans une très très grande régression et malheureusement j'ai peur de ce qui va arriver et ce qui va être décidé.
C'est pour ça qu'il faut rester mobilisé. C'est clair qu'il faut surtout pas lâcher maintenant, quoi. Et puis par rapport à ce que tu viens de dire, il y a une atteinte aux droits fondamentaux dans ce projet de loi. C'est parce que en autorisant les OQTF avant même l'appel auprès de la CNDA, enfin auprès de la CNDA, en droit français mais en droit international, on a toujours le droit de contester un jugement. De toute façon, ça c'est prévu dans tous les textes.
Alors
et là, en fait, on ne le conteste même plus, on est expulsé d'office.
Les tribunaux, les préfectures disent, mais il a le droit de contester. Mais
oui,
il peut contester de l'étranger.
Je sais.
Et puis si jamais il obtient le statut, il pourra revenir.
J'ai lu effectivement aussi les choses là-dessus, mais c'est d'une hypocrisie absolument.
C'est
d'une hypocrisie à pleurer.
Et ils reviendront en façon irrégulière, puisqu'on sait que les ambassades françaises ne distribuent pas quasiment pas de visa pour les étrangers qui veulent venir en France. À part s'ils ont vraiment quelques millions et qui possèdent des sociétés qui sont intéressantes. Mais les personnes ont vraiment beaucoup de mal à obtenir des visas. C'est bien pour ça qu'elles passent par des consulats d'autres pays d'Europe et qu'elles viennent avec des visas Schengen et pas avec des visas français.
Mais pour compléter ce que tu viens de dire, Claire-Lise, moi j'ai une petite information alors qui est sortie sur le site d'Amnesty là, au début du mois de janvier et qui indique qu'en fait deux ressortissants syriens, donc quand on connaît la situation en Syrie et la guerre civile qui n'est toujours pas terminée, deux ressortissants syriens en France ont été menacés d'expulsion et de retour vers la Syrie. C'est ce que tu viens de dire d'OQTF. Donc je ne vais pas vous lire toute l'histoire, mais simplement les points essentiels. En octobre 2022, deux personnes se présentant comme des ressortissantes syriennes, ont été enfermées dans des centres de rétention administrative de Toulouse et du Ménil-Amelot, donc en Seine-et-Marne, par la préfecture de Haute-Garonne et la préfecture de police de Paris, avant d'être expulsées vers la Syrie. Ce faisant, les autorités françaises violaient en toute connaissance de cause les règles internationales et européennes qui interdisent de façon absolue le renvoi d'une personne vers un pays où elle risque la torture et les mauvais traitements. Non seulement les deux préfectures ont prévenu les autorités syriennes de la présence, donc en centre de rétention, de ces personnes et de leurs identités, sans précaution quant au risque qu'elles pourraient encourir face à ces mêmes autorités en cas de retour dans leur pays, mais des juges n'y ont vu aucun problème, alors même que des exemples récents de meurtres, disparitions et tortures de réfugiés retournés récemment en Syrie ont été documentés et que la guerre et la répression continuent à ravager le pays. Bon, Amnesty complète sur un rapport qui s'appelle « You're going to your death » en anglais, qui est paru sur la situation en Syrie en 2021. C'est un des exemples des rapports qu'on a fait pour illustrer effectivement ces propos-là. Alors pour continuer l'histoire, effectivement, les deux personnes réfugiées menacées d'expulsion ont finalement été libérées par le juge de la liberté et de la détention, mais risquaient toujours d'être renvoyées vers la Syrie, leurs obligations de quitter le territoire français, OQTF, étant toujours valides malgré leur libération. À la suite de ça, la CIMAD et Amnesty France ont interpellé le gouvernement français sur cette anomalie vis-à-vis de ces deux personnes. Enfin, anomalie, c'est un euphémisme, hein, c'est bien pire que ça. Et donc, finalement, on a appris le 11 janvier que la réponse du gouvernement français, à la suite donc de l'alerte de la CIMAD et d'Amnesty, le gouvernement français s'engage de nouveau à ne pas expulser de personnes en Syrie, mais il doit aller plus loin en ne notifiant pas de décision d'éloignement et en délivrant un titre de séjour aux personnes qui ne peuvent pas être expulsées. Voilà. Exemple de l'hypocrisie généralisée dramatique dans laquelle on vit.
Il y a une difficulté qui s'illustre aussi dans le département de l'Eure, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui effectivement ne peuvent pas être expulsées. Par exemple, je pense à un Ukrainien qui vit à Évreux, qui n'arrive pas à avoir un titre de séjour. Alors effectivement, le préfet, l'ancien préfet, celui qui est parti, Monsieur Filippini, a dit je sursois à son expulsion. Donc du coup, il ne l'a pas expulsé, mais il ne l'a pas régularisé non plus. Et on se retrouve avec des gens qui sont ni expulsés, ni régularisés. Et c'est aussi une énorme hypocrisie des administrations. Oui. Et on les pousse au désespoir, ces personnes. Bon. Et on les prive de tous leurs droits fondamentaux. Le droit au logement, le droit au travail, le droit à la santé. Enfin, c'est terrible, hein, ce qui est en train de se passer.
On en fait des sans-papiers avec tout ce que ça comprend comme conséquence pour la vie des gens, ça c'est clair. On fait une petite pause musicale, on se retrouve juste après.
Je te souhaite des mains heureuses, des mélodies curieuses, des caresses dans les creux et du bonheur contagieux. Je te souhaite des erreurs de parcours, des chemins de traverse. Je te souhaite des milliers de détours, des qui tombent et qui renversent. Je te souhaite un phare pour ton bateau, le soupir du repos, le langage des couleurs, le rose qui monte aux joues, le noir de l'humour fou, le bleu des petites peurs. Aux cœurs enrhumés, à vos souhaits, je te souhaite la naïveté des gosses, des ivresses de manège, le bruit des vagues, le silence de la neige. Je te souhaite des chansons qui te ressemblent, avec des mots tendres et percutants, des révoltes, la promesse du printemps. Je te souhaite des terrasses de café, la sortie du tunnel, le ciel de la marelle, des cascades de rires partagés et leur plaisir qui nous rappelle. Aux cœurs enrhumés, à vos souhaits, je te souhaite des échos, des rebonds, des cimes et des sommets, des beautés infatigables. Je te souhaite des pays inventés. Je te souhaite des horizons, des folies pleines de douceur, des révolutions intérieures, des chapeaux bas, des hauts les cœurs. Oh, les cœurs enrhumés, à vos souhaits. Oh, les cœurs enrhumés, à vos souhaits. Oh, les cœurs enrhumés. À vos souhaits.
Le retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc oui, effectivement, Edith m'a soufflé pendant la pause musicale une petite colle pour les auditeurs et les auditrices. Est-ce que cette chanson vous rappelle quelque chose?
Un quiz musical.
On va voir s'il y a un coup de téléphone qui sonne pour voir si quelqu'un se rappelle
vous
quelque chose.
Vous l'avez entendu il n'y a pas très longtemps, c'est mais... Ça.
Bah, c'est une chanson de Ben Herbert Larue, effectivement.
Ah bah, tu donnes la réponse avant même de nous donner la chanson.
Non, c'est une chanson de Ben Herbert Larue qui s'appelle « À vos souhaits » et qui est tout à fait indiquée en cette période de vœux pour la nouvelle année. Et on vous l'a déjà passée à la dernière émission du mois
oui,
de décembre.
Mais quand
voilà, en prévision pour les vœux de la nouvelle année. Mais
avec Mina.
On s'est dit que...
Avec une chanteuse célèbre.
C'est ça. Oui, il y a une chanteuse célèbre qui s'appelle Mina, effectivement. Réécoutez le podcast de la dernière émission du mois de décembre, vous verrez. Mais on s'est dit que c'était une bonne occasion. Et Bernard Larue, quelqu'un qui soutient les combats d'Amnesty International. Voilà, donc ça nous faisait deux très bonnes raisons. Voilà, et je crois que c'était... Alors, je reprends mon conducteur. Je crois que c'était Edith qui voulait vous parler de tout à fait autre chose que des migrants.
Oui, parce que c'est vrai qu'on discutait entre nous avant l'émission, en préparant l'émission de radio, en disant que on pourrait parler de l'Ukraine parce que effectivement c'est une catastrophe ce qui se passe là-bas. Mais vous avez sur le site d'Amnesty régulièrement beaucoup d'infos et on s'est dit que les médias en parlent quand même beaucoup aussi. Et c'est vrai que le choix, à certains moments, enfin mon choix, c'est pour cette radio, c'était plutôt de parler de pays qui ne font pas l'actualité et dans lesquels il y a quand même des situations bien compliquées. Là, c'est le Burkina Faso. J'ai trouvé cet article sur le site d'Amnesty où le 30 décembre 2022, il y a eu au moins 86 personnes qui ont été tuées à Nouma. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est ça qui est important. Enfin, moi, c'est ça que j'ai découvert en lisant l'article aussi. C'est, bon, le Burkina Faso, il y a 20 ans, c'était un pays d'Afrique où tout allait bien, où on pouvait, qui était avec une capacité aussi bien au niveau éducation, au niveau économie. Enfin, tout allait bien. Et depuis 2016, depuis l'insurrection islamique, c'est un pays qui est vraiment au milieu de plein de problématiques dans le cadre d'un conflit qui a causé la mort de milliers de civils, déplacé près de 2 millions de Burkinabés, soit environ un dixième de la population, avec beaucoup d'insécurité, de prise d'otages, de choses comme ça. Donc comment se défend le Burkina Faso? En janvier 2020, le gouvernement a adopté une loi portant création de volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, une milice auxiliaire assistant l'armée dans sa lutte contre l'insurrection. Les membres des VDP reçoivent 15 jours de formation. Leurs déploiements se font souvent en réponse aux demandes de populations locales, mais donnent aussi fréquemment lieu à des accusations de ciblage ethnique et d'autres abus. En octobre 2022, déjà, le gouvernement a annoncé le recrutement de 50 000 VDP supplémentaires. Et cet homicide qui a lieu à Nouma suit un schéma similaire d'autres événements s'étant produits dans la ville de Yirgu. En 2019, alors là, c'est 100 civils non armés, des peuls pour la plupart, qui ont été tués en représailles par des membres du Kol El Wego, une autre force auxiliaire du gouvernement, sur une période de plusieurs jours. Alors, ce massacre faisait suite à un meurtre d'un chef traditionnel par des membres d'Ansarum Islam, un groupe armé islamique. Donc, personne n'a été jugé pour ces homicides et ce qui s'est passé là en décembre à Nouma, ça ressemble complètement à ce schéma-là. C'est-à-dire que il y a eu une attaque d'une base VDP, un poste de gendarmerie, des combattants islamiques quelques heures auparavant et en représailles. Il y a eu tous ces VDP qui sont arrivés à Hanouma et là, qui ont vraiment fait beaucoup de victimes sans aucune sommation, en rentrant dans les maisons, en ciblant aussi une population peul et en frappant, en tirant sur des dizaines de civils non armés dans leur propre foyer. Presque tous les hommes et les garçons de plus de 16 ans ont été tués par des chasseurs d'oiseaux, donc ceux qui font partie des VDP, selon les témoins. Alors un témoignage, 30 minutes après que j'ai parlé au téléphone avec mon père, ma belle-mère m'a appelé dans tous ses états pour me dire que des hommes armés se trouvaient dans le secteur. Ils étaient à deux armés, ils sont rentrés, ont demandé à mon père de les suivre et plus tard on a retrouvé le corps de mon père non loin de là. 38 personnes ont été tuées, mais quelques jours après, d'autres victimes enterrées ont été retrouvées. Donc, je trouve que ce qui est vraiment compliqué, c'est que c'est des pays qui sont en désarroi par rapport à la menace islamique. Les milices qui se créent avec l'accord du gouvernement, il y a aussi beaucoup de contingences ethniques et qui font qu'on peut arriver à des massacres dans ce pays où il y a très peu, à ce moment-là, peu d'enquêtes. Et on demande effectivement à Amnesty qu'il y ait des enquêtes approfondies, impartiales, qui permettent de traduire en justice les auteurs présumés de ces atrocités, car défendre son pays, pourquoi pas, mais pas à n'importe quel prix. Et on sent vraiment que c'est des pays qui partent dans des spirales de non-droit qui sont vraiment inquiétantes.
Merci.
Voilà, je fais un petit blanc, mais bon, voilà.
On est tous restés sans voix après ton intervention, effectivement. Et alors, je crois qu'on va complètement changer de pays et que Claire-Lise va vous parler de l'Iran.
Alors, on va changer de pays, mais ça va pas franchement être plus gai, hein, parce que j'avais envie de vous reparler d'Iran, parce qu'on vous a beaucoup parlé du soulèvement, du courage des Iraniennes, des Iraniens, de tous ces jeunes Iraniens qui vont dans la rue et du peuple qui se fait tirer dessus. Et il y a une escalade de la violence, de la réponse aux manifestants de la rue, c'est la peine de mort pour étouffer le soulèvement populaire. Donc en fait, les autorités iraniennes usent de méthodes de répression des plus cruelles pour étouffer le soulèvement de la population. Parmi ces méthodes, la peine de mort. Donc 4 manifestants ont déjà été exécutés. Donc les exécutions en lien avec le soulèvement ont débarré le 8 décembre. Mohsen Sekari est le premier manifestant à avoir été exécuté. 5 jours plus tard, Madi Dreza Rahanavar a été exécuté sur une place publique à Machad. Et début janvier, les exécutions se sont poursuivies. C'est Mohamed Madi Karami, 22 ans, et Seyed Mohamed Hosseini, 39 ans, qui ont été exécutés. Ils avaient donc tous entre 20 et 40 ans environ. Comme des milliers d'Iraniennes et d'Iraniens, ils participaient aux manifestations en lien avec le soulèvement populaire en cours en Iran depuis plus de 4 mois. Ils ont été exécutés après des simulacres de procès et c'est l'horreur la plus absolue. Donc les autorités iraniennes se servent de la peine de mort comme d'un outil de répression politique dans le but de mettre fin au soulèvement populaire, d'instiller la peur parmi la population qui ose encore descendre dans la rue pour demander simplement plus de liberté. S'appelle le soulèvement, voici l'objectif des autorités iraniennes en condamnant à mort des manifestants. Alors recourir à la peine de mort, ce n'est pas nouveau dans le pays des Mollahs. L'Iran est le deuxième pays qui la pratique le plus après la Chine. En 2021, l'Iran a mené au moins 314 exécutions, un total qui n'avait jamais été aussi élevé depuis 2017. L'État iranien est engagé dans une politique de terreur que l'on retrouve dans la rue et dans les tribunaux. Depuis le début du soulèvement déclenché par la mort en détention de Mahsa Amini le 16 septembre, on compte plus de 300 morts dans le pays, dont 41 enfants et des milliers d'arrestations. Mais le bilan humain pourrait être beaucoup plus élevé. Pour instiller la peur auprès de la population, les autorités ont accéléré les procédures de condamnation à mort afin d'exécuter plus rapidement. 2 nouvelles exécutions de manifestants ont eu lieu début janvier et donc c'est un décompte insupportable. Et plusieurs personnes risquent le même sort dans les jours à venir. Parmi elles, Saman Sedi, un jeune rappeur kurde, Mahan Sadran Madami, un manifestant de 22 ans, et comme des milliers d'Iraniens et d'Iraniennes, ils soutenaient le soulèvement qui secoue le pays et ils risquent d'être exécutés. Donc les Iraniens qui se trouvent aujourd'hui dans le couloir de la mort sont pour la plupart âgés de moins de 30 ans. Ce sont des jeunes qui sont tués, ce sont des enfants, et c'est effrayant. C'est toute une génération que l'État est en train de détruire. Donc ça, c'est une réaction de Agnès Calamard, la secrétaire générale d'Amnesty France. La société civile et les États doivent faire ce qui est dans leur pouvoir pour se tenir aux côtés de ces manifestants et pour exercer une forte pression sur les autorités iraniennes afin de faire cesser les exécutions et d'annuler les peines de mort. Alors, ne les abandonnons pas. Il faut envoyer un message très clair aux dirigeants iraniens et aux acteurs iraniens qui tuent. Le moment viendra où ils devront rendre des comptes, a déclaré Agnès Calamard, notre secrétaire générale. Plus d'un million de personnes ont signé cette pétition adressée aux États membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour demander l'ouverture d'un mécanisme indépendant d'enquête sur les crimes commis en Iran. Résultat, le 24 novembre 2022, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a créé une mission chargée d'enquêter sur les violations des droits humains liées aux manifestations en Iran. Une décision forte qui doit ouvrir la voie à de futures poursuites. Nous espérons que cette mission sera à la hauteur des enjeux. 100 parlementaires français ont parrainé des manifestants condamnés à mort pour visibiliser le sort macabre des Iraniens condamnés à mort. Chaque action est bénéfique pour obtenir un réel sursaut de la communauté internationale afin que cessent les exécutions. Plusieurs personnalités publiques, acteurs, sportifs, artistes, journalistes, etc., se sont mobilisés en Iran et partout dans le monde pour dénoncer la répression sanglante. Nous sommes aux côtés de ces Iraniens qui, à tout moment, risquent d'être exécutés. Nous sommes aux côtés de toute la population iranienne qui, malgré la terreur instillée par les autorités et au péril de leur vie, restent debout. Ne les abandonnons pas. À notre échelle, nous aussi, nous pouvons agir. Alors, il faut relayer, il faut interpeller, il faut partager les visages de ces Iraniens pour que les exécutions ne se poursuivent pas sous nos yeux. Il faut utiliser les hashtags Stop Exécution Iran, hashtag Stand With Iranian. Alors, comment agir? Donc, il faut, face à un tel niveau d'atrocité, vous êtes nombreux et nombreuses à nous demander comment agir. La première chose à faire, c'est en parler, ne pas rester silencieux, c'est déjà une façon d'agir. Le niveau de répression est tel en Iran que nous nous devons de porter la voix de la population iranienne. Il faut relayer, il faut interpeller, il faut partager pour que sous nos yeux, les exécutions pour ne pas que sous nos yeux les exécutions se poursuivent. Alors, il y a 3 actions à faire. Donc, interpeller les autorités iraniennes et la communauté internationale sur Twitter. Relayer les informations sur la répression du soulèvement. Envoyer un courrier aux autorités iraniennes. Alors, pour agir sur Twitter, nous vous proposons sur le site d'Amnesty 2 modèles de tweets pour désigner aux autorités iraniennes, pour demander aux autorités iraniennes de cesser toute exécution et d'annuler toute condamnation à mort. La mobilisation internationale est plus que jamais nécessaire. Plus nous serons nombreux et nombreuses à publier ces messages, plus la communauté internationale s'emparera du sujet et des vies sont en jeu. Alors, voici le premier modèle de tweet que nous pouvons relayer. En Iran, les autorités ont déjà exécuté 4 manifestants. Plusieurs personnes risquent de subir le même sort dans les jours à venir. Alors, @khameniir @IranInFrance, ces exécutions doivent cesser et toute condamnation à mort doit être annulée. Hashtag stop exécution. Deuxièmement, relayer les informations sur la répression du soulèvement. Donc ça, c'est sur les réseaux sociaux, sur tous vos réseaux sociaux. Donc Mohsen Shekari et Majid Reza Ranavar sont les premiers manifestants à avoir été exécutés à la suite de simulacres de procès. Leurs visages doivent être connus de tous et de toutes. Vous pouvez relayer les photos de Mohsen Shekari et de Majid Reza Ranavar avec le hashtag Stop et l'exécution Iran et hashtag Stand with Iranians. Et partager sur Facebook. Donc, faut aussi envoyer un courrier aux autorités iraniennes. Alors, il semblerait que l'ambassade d'Iran en France ait bloqué sa boîte mail. Oui, et que... les courriers, parce qu'on a, on a une copine, de, une bénévole du groupe d'Evreux qui avait envoyé un courrier à l'ambassade. Il y a eu un retour à l'expéditeur, mais le courrier avait quand même été lu, enfin, avait été ouvert et lu. Donc voilà, en fait, plus vous serez nombreux à écrire, plus ça va les chatouiller. Et ils n'aiment pas, de toute façon, que l'opinion publique se mêle de ce qu'ils font. Donc, nous vous invitons à leur écrire par voie postale. Et en recevant des centaines de courriers, ils devront en rendre compte aux autorités en Iran. Chaque envoi de courrier vous permettra de manifester votre soutien à la population iranienne et surtout de demander l'arrêt de ces exécutions. Donc il y a des modèles de courriers envoyés aussi qui sont sur le site d'Amnesty. Voilà, donc surtout mobilisez-vous, il ne faut pas oublier la population iranienne, le courage de ces jeunes gens et de toutes ces personnes qui sortent dans la rue. Nous ici en France, on se bat pour le droit de manifester et on râle quand on a quelques ennuis avec la police. Là-bas, ils risquent leur vie.
Tout à fait. Donc on rappelle le site d'Amnesty, hein, www.amnesty.fr, ça c'est le site d'Amnesty France. Bien sûr, vous avez toutes les possibilités pour agir en vous connectant sur le site, comme vous l'avez expliqué Claire-Lise. Et puis juste un petit commentaire pour finir, et puis on va peut-être bousculer un peu notre conducteur parce que l'heure passe vite. Mais juste un petit commentaire pour finir. À l'heure actuelle, moi j'ai entendu aussi aux informations, alors pas amnistiennes, mais aux informations générales, qu'à l'heure actuelle, effectivement, le niveau de répression en Iran et l'ignominie que ça représente dérange de plus en plus les autorités politiques dans plein de pays qui commencent effectivement à se désolidariser complètement des autorités iraniennes. Et plus il y aura effectivement de gouvernements qui vont manifester leur désapprobation et leur dire en gros, pour parler simplement, bon les gars, ça suffit maintenant effectivement, plus le risque que les... Enfin,
les gars, les filles.
Plus la chance, ouais. Oui. Plus la chance que les... Plus le, comment dire, plus la proportion de comment dire, je cherche le mot.
Je t'ai coupé.
Plus le...
Plus ça va les embêter.
Plus ça va les embêter, voilà. Et
on peut espérer qu'ils changent un peu leur...
Moins ils seront soutenus, plus ils risquent effectivement de lâcher par rapport à la répression qu'ils sont en train de commettre. Voilà. Donc, il faut continuer effectivement par rapport à ça. Bon, on avait, juste avant, on va faire la pause musicale parce qu'on va bousculer un peu notre
pause conducteur. Musicale, voilà.
Juste avant la pause musicale, puisque Amnesty, c'est aussi agir avec nous, je vais vous faire un petit rappel pour une action qui est en cours. Là, c'est juste une pétition à signer, mais la pétition s'arrête le 6 février. Donc, effectivement, il faut se mobiliser pour continuer à la signer. C'est un des cas qu'on a défendu dans la campagne 10 jours pour signer au mois de décembre dernier. C'est contre un... Je veux dire pas du tout, pour un Marocain qui s'appelle Nazer Zerzafi et qui donc milite pour le droit à l'éducation, à l'emploi et aux soins médicaux dans sa région, qui est une région du Maroc, les habitants du Rif, où ces droits-là sont extrêmement mal proposé, finalement j'ai du mal à trouver mes mots ce soir.
Mal proposé, pas très bien.
Oui.
Une région déshéritée du Maroc.
Voilà, tout à fait. Et donc il a manifesté pour le maintien de ses droits et il s'est retrouvé avec il a participé à un mouvement qui s'appelle le Irak du Rif, un mouvement de protestation. Et il s'est retrouvé avec d'autres personnes de ce mouvement emprisonnés pour ces raisons-là. Donc on réclame sa libération immédiate et sans condition auprès des autorités marocaines. Décidément, j'ai du mal ce soir. Voilà. Et donc, on vous encourage à signer cette pétition. Encore une fois, il s'appelle Nazer Zefzari. Voilà. Donc, on passe la deuxième pause musicale et on se retrouve juste après.
Propager le mensonge des fous, ce sera sans nous. On a les mots pour les irriter, même le visage ensanglanté. On accepte le prix de la vérité. Nos vérités dérangent, on s'en fout. Propager le mensonge.
comme étendard. Depuis mes premiers disques, je prends des risques. On danse pas sur ma musique, donc je serai jamais une superstar. Au pays des droits de l'homme, mais de quel homme? Je rentre pas dans leurs critères, mais de quelle norme? S'intégrer, mais sous quelle forme? Avec mes cheveux crépus et mes lèvres gonflées, même moi j'ai du mal à le croire. Mais à ce qui paraît, je suis français. Franchement, sans vous offenser, je suis pas venu en France pour danser, mais pour banquer. J'ai tronqué le son contre du sale rap français. Je suis menotté à la vérité, à l'inverse des célébrités qui débitent des stupidités. Je ne conçois pas la forme sans le fond. Qu'est-ce que je fais? Je mène une révolution sur le son, sans le sang de mandat. Ah, disons, si je défends mes convictions, piégé dans son émission, je n'ai pas trahi mes positions. Comprends que je n'ai pas ma place dans leur talk show. Je peux pas porter le masque occidental du gentil négro. Hypocrisie démocratique, deux poids, deux mesures. Va dire aux provocateurs que je rejette leur caricature. Votre justice porte un voile arbitraire et opaque. On parlera laïcité pendant les vacances de Pâques. Bleh! J'ai trempé ma vérité dans du piment. Comme Fab, j'ai encore la pertinence de l'impertinent. J'parle et j'agis depuis idéal J. Et même les pseudo-black pros me changent pas ce que je suis, me changent pas ce que je pense, me changent pas ce que je crois. Pour faire tomber ma plume, il faut me couper les doigts. Tu peux me crever les yeux, tu ne changes pas ce que je vois. Tu peux me trancher la gorge, mais mes écrits ont une voix. Bleh. Autrement dit, il faut me tuer sur le boulevard des vendus. Tu ne verras pas ma vérité se prostituer. Si un jour il m'assassine, continuez le combat et enterrez-moi à Médine. Nos vérités dérangent, on s'en fout. Propager le mensonge des fous, ce sera sans nous. On a les mots pour les irriter, même le visage ensanglanté. On accepte le prix de la vérité. Nos vérités dérangent, on s'en fout. Propager le mensonge des fous, ce sera sans nous. On a les mots pour les irriter, même le visage ensanglanté. On accepte le prix de la vérité.
Faudra nous coudre les lèvres, nous clouer le bec. Au 9 mm, faudra nous trouer les pecs. Nous couler dans la glaise ou bien plastiquer nos caisses. C'est Medine et Kerry James qui viennent couper les têtes. Faudra zipper le sac mortuaire sur mon visage et m'envoyer rejoindre James Brown et Isaac Hayes. Ici Sakai, les stades sont remplis de Zig Heil. Y'a pas de trône dans le rap mais que des chaises musicales. Les cordes vocales, faudra nous atrophier. Que tous ces ploucs nous écoutent ou qu'ils s'étouffent avec leurs trophées. Allez tous vous faire intégrer dans leur chaîne. Moi je ne cherche pas la vérité sous le prochain PHL. Puis par pour la one, je n'ai pas la voix de Palavoine. Sur les traces de mes ancêtres, j'ai pris la voix du Padawan. Bah ouais, lorsque le ventre a digéré trop de mensonges, la vérité bouleverse comme la grosse frappe de King Kong. Faudra nous limer les canines, percer nos calcanies, laisser nos carcasses pour mortes sur le tatami. Nous on agit à la hauteur de nos réputes, car les cimetières et les bistrots sont remplis de gars qui auraient pu. Moi j'ai la fer, d'aiguiser le fer, d'épicer la fer à citer lorsque le fer a sifflé. J'ai la férocité, les MC vont se faire chiffler. Faudra les faire exciser, oh, faire à souder. Non, ce n'est pas vulgaire, c'est du hardcore de compète. Celui qui vise la tête sans le syndrome de la tourette. Celui qui se fout des grosses Rolex et des machines à roulettes. Celui qui passe par la fenêtre comme Pierre Brossolette. Ah, en plus d'un tigre dans la gorge, moi j'ai la rime utilée. J'porte le nom d'une ville qui regorge de martyrs. Medine, en featuring sur le son de Killer James. Balance les traces qui cicatrisent leur coupure de presse.
Nos vérités dérangent, on s'en fout. Propager le mensonge des fous, ce sera sans nous. On a les mots pour les irriter, même le visage ensanglanté. On accepte le prix de la vérité. Nos vérités dérangent, on s'en fout. Propager le mensonge des fous, ce sera sans nous. On a les mots pour les irriter, même le visage ensanglanté. On accepte le prix de la vérité.
De retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, on vient d'entendre un morceau de Kerry James et Medine. Et en fait, on vous l'a passé parce que, restez jusqu'à la fin de l'émission, on va vous dire quelques mots tout à l'heure par rapport à ça. Mais on sera présent au concert de Medine qui passe au Cube le 10 février prochain. Donc, c'est pour ça qu'on a passé aussi ce morceau. Je crois que c'est la première fois qu'on passe du rap dans l'émission. Voilà.
2023.
Et donc,
plein de choix différents.
Donc, on sera présent à ce concert de Medine le 10 février. On vous en reparle tout à l'heure. Mais je crois que c'était Edith qui avait d'autres choses à vous dire.
Eh bien, moi, c'est un petit... plusieurs petites informations prises dans la chronique. Alors, vous savez que j'aime bien toujours ce qui est au niveau des nouvelles technologies. Big Brother, pour un petit peu... partager avec vous certains dangers de toutes ces technologies. Alors, deux petites infos, là, à partager. Donc, en Turquie, donc je vous l'exprime comme c'est indiqué, donc c'est comme si quelqu'un parlait. Si la loi est adoptée par le Parlement, vous pouvez casser vos téléphones et les jeter. Et en pleine séance parlementaire, le 12 octobre dernier, le député turc de centre-gauche, Burak Erbay, a sorti un marteau pour exploser son smartphone. Ce geste fort n'a pourtant pas empêché l'adoption d'une nouvelle loi, et cette loi qui inquiète les défenseurs des droits humains. Outre les journaux, les radios, les télévisions, ce texte législatif vise les réseaux sociaux et sites internet auxquels il sera demandé de dénoncer et de livrer les informations personnelles de leurs usagers accusés de propagation de fausses nouvelles. Et quand on sait ce que c'est la fausse nouvelle en Turquie, on peut comprendre que la liberté et l'expression est une fois de plus, on lui a tapé dessus.
Oui, c'est moins qu'on puisse dire, effectivement.
Voilà, bon,
on a été bien malmené même.
Alors une autre petite, pareil en Chine, destituer le dictateur Xi Jinping, pouvait-on lire sur une banderole accrochée sur le pont à Pékin à la mi-octobre, au moment même où le président chinois était sur le point d'être conduit pour un troisième mandat. Ni une, ni deux, toutes les personnes ayant relayé une photo ou une vidéo de l'insultante banderole ont été privés de l'accès à leur compte WeChat. Une sorte de camisole numérique, car en Chine, sans cette appli, il n'est plus possible de payer au supermarché, de prendre un taxi, d'avoir accès à ses contacts, que ce soit pour le travail ou pour les amis. Alors des dizaines d'utilisateurs ont bien tenté de faire mea culpa en suppliant l'opérateur de revenir sur leur compte, mais sans succès. Voilà à quoi peut servir dans certains États les droits numériques, on va dire ça comme ça. Alors, une petite dernière info au Cambodge. Cyber-esclave. Donc, un chef cuisinier indonésien au chômage depuis la pandémie, Reski Reizaldi, a répondu à une petite annonce publiée en février dernier sur Facebook. Ce trentenaire pense être embauché comme chargé de clientèle au sein d'une société d'investissement basée au Cambodge. En réalité, à son arrivée, il est pris dans les filets de trafiquants chinois, séquestré, obligé de mener des escroqueries en ligne, en ciblant notamment des femmes de différents pays asiatiques. Quand Rizaldi ne rapporte pas suffisamment d'argent, ses ravisseurs le battent. Quand il essaie d'alerter l'ambassade de son pays, il est soumis à des décharges électriques. Après avoir été vendu via une messagerie cryptée à un autre gang, l'Indonésien parviendra à s'échapper et à regagner son pays. Cette histoire, qui a été relatée par le Los Angeles Times le 1er novembre dernier, s'ajoute à d'autres témoignages hallucinants de rescapés de ces mafias chinoises. Très organisés, ces cybercriminels appâtent leurs victimes au Cambodge en leur promettant des salaires élevés avant de les réduire en esclavage. Jusqu'à 100 000 personnes seraient concernées. Alors la police cambodgienne a fait des raids contre ces complexes d'arnaques en ligne, mais ce n'est pas suffisant. Et le gouvernement minimise un peu la gravité de ce trafic d'êtres humains. Voilà.
Et donc, on a souri avec Clarisse quand tu as dit Facebook.
Oui, parce que
effectivement,
j'ai une très très mauvaise habitude.
Parce que Edith,
je dis face de bouc.
Dit toujours face de bouc et non pas Facebook.
Et on a senti qu'elle essayait de se reprendre.
Ça nous a
fait rigoler.
Voilà. Et si moi je cherchais mes mots tout à l'heure et que j'avais du mal à les trouver, là, t'as failli utiliser ton expression.
Parce que nous sommes honnêtes avec les auditeurs et nous leur racontons tout.
Voilà. Bon, moi, je vais juste vous dire rapidement, parce qu'on va toucher au terme de l'émission là, dans peu de temps, juste vous dire rapidement, à la place de Mina, puisqu'elle n'est pas là ce soir, c'est la spécialiste de nos rubriques culturelles. Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Les nouveaux esclaves ». Ça s'appelle « Les esclaves de l'homme pétrole », pour être tout à fait précis. Et c'était publié aux éditions Marc Kiali. Et c'est signé par deux journalistes, Quentin Muller et Sébastien Castelier. qui ont fait un livre sur effectivement l'exploitation des travailleurs dans tous les pays du Golfe. Bon, je sais qu'on a beaucoup parlé de l'exploitation des travailleurs au Qatar avec la Coupe du Monde, et c'est un petit peu une piqûre de rappel, mais en même temps, ça englobe tous les pays du monde. Et alors, l'article qui en parle dans la chronique, on vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty France. N'hésitez pas à vous abonner. C'est sur le site aussi, le formulaire d'abonnement. Et donc, la chronique sur ce livre commence comme ça. Mélanie a été enterrée au bulldozer. Ça n'a duré que quelques secondes. Cette domestique malgache, employée en Arabie Saoudite, a été retrouvée, la tête coupée, à côté de son corps. Son destin tragique est loin d'être un cas isolé, constatent les journalistes Quentin Muller et Sébastien Castelier. Chaque année, près de 10 000 migrants meurent dans les pays du Golfe. Derrière ces chiffres, la mécanique bien huilée du trafic d'êtres humains qui alimente les besoins en main-d'œuvre des pétromonarchies. Voilà. Donc, bon, il y a toute une explication sur ce bouquin. On vous rappelle le titre, Les esclaves de l'homme pétrole, aux éditions Marchiali. Et il est disponible, effectivement, en ce moment, en librairie. Et la fin de la rubrique qui parle de ce livre se termine de la façon suivante. Alors que la Coupe du Monde s'est achevée au Qatar, le 18 décembre, ce livre vient nous rappeler son terrible coût humain. Voilà, donc il ne faut pas baisser la garde, hein, baisser le combat par rapport à l'atteinte aux droits des travailleurs dans les pays du Golfe, parce que ça continue à être absolument catastrophique.
Et là, c'est pareil, et ben, il faut faire passer ces informations-là pour que les gens on s'en rendent compte.
Tout à fait. Je crois que tu voulais dire un petit mot sur une histoire qui se passe en France.
Oui, alors ça va être très rapide. Très rapide, oui. Mais c'est quelque chose qui me soucie quand même pas mal. Donc, depuis l'année dernière, les associations qui demandent des subventions doivent signer un contrat d'engagement républicain. Alors, c'est soi-disant pour limiter des associations islamiques, etc. Mais on se rend compte que là, dernièrement, il y a des procès qui sont en cours, des associations qui ont été à qui on a demandé de venir au niveau des tribunaux. Donc, je vous fais ça très rapide. Hein. Vous pouvez voir un article. Moi, j'ai vu sur Reporter. Didier m'a dit qu'il y en avait aussi sur Mediapart. Donc, des associations plutôt d'obéissance écologique et à qui on reproche de faire des interventions sur une désobéissance civique, ce qui est carrément tout le monde a le droit de parler. Mais, effectivement.
Je t'interromps, mais la désobéissance civile n'a jamais été un délit.
Voilà, et on met en jeu donc les subventions, on met en jeu des associations aussi. Alors j'ai vu dans le Cantal l'une, parce que Mouvance Radicale, donc ultra-gauche, on ne sait pas trop ce que c'est, donc il y a deux associations paysannes, l'une défense des races locales et l'autre d'aide aux bergers. Bon, franchement, chacun pourra imaginer que la Mouvance Radicale est quand même assez rurale. Il y a aussi Alternativa Poitiers qui a fait un atelier lors du village des alternatives, un atelier sur la désobéissance civique. Voilà, et ben on met en jeu ces subventions. Enfin bon, il y a tout un vent très très désagréable que l'on dénonce dans d'autres pays quand l'État essaye d'avoir la mainmise sur les associations et sur leur liberté de parole. Eh bien, c'est en France, surveiller.
Et il y a des associations sur Évreux, donc des associations de défense des droits humains et des immigrés, où effectivement on a été obligé de signer ce contrat républicain, mais on reste très vigilant sur les possibles dérives d'application. C'est-à-dire que si un jour on nous reproche d'aider des immigrés parce qu'on aide à la régularisation, on pourrait être sous le coup. Qu'il n'y a que un ou deux articles, hein, parce que sinon la plupart de ce texte, les gens respectent la loi, respectent la République, respectent les principes de la République. Sauf qu'il y a un ou deux articles où c'est « vous ne devez pas manifester, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela ». Et là, on se dit « nous, on le fait toujours dans le respect, et donc on attend, on verra bien ». Voilà. Mais on arrive à la fin de l'émission, là,
On en reparlera. Il nous reste juste une minute pour nos infos locales, effectivement. Donc, prochaine émission, qui sont très courtes. Prochaine émission d'Amnesty, c'est le 31 janvier, donc 19h en direct sur l'antenne de Principe Actif. On vous rappelle que tous les podcasts sont en ligne sur le site de la radio, principeactif.net. On vous rappelle notre adresse mail aussi si vous voulez nous contacter, evreux@amnestyfrance.fr, evreux@amnestyfrance.fr. Et donc, on sera présent le 10 février au concert de Médine au Cube. Et je vous lis juste deux phrases qui tiraient de la présentation sur le site du Tangram. La constance de ces combats, donc de Médine, contre le racisme et la banalisation des idées d'extrême droite s'inscrit dans une logique de rassemblement démontrant la force et l'université de son message. Donc c'est pour ça qu'on y sera le 10 février. Voilà, on laisse l'antenne à l'ami du laboratoire qui vient d'arriver et on vous dit rendez-vous le 31. Bonsoir.
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 Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.